Chapitre 28. J'aperçois Tom en bas de la côte de Cérette, dans le premier virage au-dessus du lac Chambon, à pied. Il est descendu de son vélo. Il n'a pas pu pédaler plus de 50 mètres dans la montée. À vrai dire, je m'en doutais. Je me doutais que cette tête de mule de Tom, dotée de la même force de caractère qu'Esteban, enfourcherait son vélo comme si de rien n'était pour se rendre à la piscine. Je me doutais que cette inconsciente d'Amandine le laisserait faire, malgré mes recommandations. Je me doutais que sa cheville tiendrait le coup dans la descente jusqu'à Murol, tant qu'il n'appuierait pas dessus, mais que dès la première montée... Je ralentis, juste assez pour dépasser Tom et garer ma mito le long du talus, quelques mètres au-dessus de lui. J'ouvre la portière passager pour bien lui faire comprendre qu'il ne doit pas aller plus loin. Tom s'arrête à hauteur du moteur et me regarde avec l'expression embarrassée d'un écolier fugueur qui croise son instituteur. « Qu'est-ce que tu fiches, Tom? Je ne t'avais pas dit pas de vélo ?»«
Si, docteur, mais... »«
Allez, monte, je te ramène chez toi. Tu peux bien te retenir de pédaler et de nager pendant une journée. » Tom hésite. Aussi irresponsable que soit Amandine, elle a tout de même dû lui apprendre à ne pas monter avec des inconnus. Tom me considère-t-il comme une inconnue? Je suis son médecin, et un médecin, c'est comme un policier, un facteur ou un instituteur. C'est un adulte en qui il peut avoir confiance. D'ailleurs, je ne lui laisse pas le choix. Je suis déjà descendue, j'ai ouvert le coffre et rabattu les sièges arrière. Tu vois, on n'aura même pas besoin de démonter la roue de ton vélo. Allez hop, c'est un ordre, tu me suis. Si tu continues à appuyer sur ta cheville ainsi, c'est toutes tes vacances que tu passeras au lit. Tom examine avec minutie le coffre de Mamito, comme s'il y cherchait des cordes, des sacs, des scies, tout le matériel d'une psychopathe qui ramasse des enfants sur le bord de la route. Finalement, il se décide et me sourit. Mon Dieu, je m'accroche à la portière. Ce sourire, c'est celui d'Esteban. Je me force à ne rien laisser paraître. Nous unissons nos forces pour hisser le vélo dans Mamito. Je fais tout ce que je peux pour ne pas croiser ses yeux bleus océans. Ceux d'Esteban, sinon je me noie dedans. Chacun sait qu'ils sont le miroir de l'âme. L'âme de mon fils vit derrière ce regard. Comment pourrais-je une seule seconde en douter? Derrière ses iris, il me sourit, rit, réfléchit, me voit. Et bientôt me reconnaîtra.
Je monte à l'avant, docteur?
Je sursaute, brusquement arrachée de mes pensées. Est-ce que les dernières barricades de ma raison sont en train de tomber? Nous observons tous les deux le vélo, qui occupe toute la place à l'arrière. « Je crois que tu n'as pas le choix. » Il grimpe, on s'attache, je démarre. Aucune voiture ne nous a croisés pendant la manœuvre. Si j'avais eu envie d'enlever Tom, ce serait le kidnapping parfait. Sa mère est irresponsable de le laisser chaque jour rouler sur ses routes désertes. Clignotant, demi-tour.
« Je te ramène à Froidefond ?»
Tom acquiesce d'un signe de tête. Il est rassuré de me voir reprendre la direction de Murol. Nous traversons le minuscule village de Saint-Victor-la-Rivière. Un smiley lumineux me sourit après avoir calculé ma vitesse. 38 km/h. Je ralentis encore, coupe la radio et lance le plus naturellement du monde.
« Guasen et Tcheraburus !»
C'est parti, direction la maison. Tom n'a pas l'air surpris. Il me répond comme s'il ne se rendait même pas compte qu'il ne me parle plus en français.
« Bye, Esqueri Casco. »«
Oui, merci. »«
Euskaraz itz egiten duzu ?»«
Tu parles basque ?»«
Pichabat. »«
Un peu. »«
Non ikasi duzu. »«
Où l'as-tu appris ?» Tom se raidit d'un coup. Le caractère irréel de notre conversation paraît soudain lui bondir à la figure.
Inon.
Nulle part. L'expression de Tom a changé. Je me mords les lèvres. J'ai été stupide. J'ai voulu aller trop vite. Désormais, il va se méfier. Je bifurque, sans activer le clignotant, en direction d'une route à peine bitumée. Tom regarde le clocher de l'église Saint-Féréol s'éloigner. J'explique, comme si je lisais dans ses pensées. C'est plus rapide que par le centre-ville. En réalité, je préfère surtout contourner Murol sans passer par le centre, pour que personne ne puisse apercevoir ce garçon sur mon siège passager. Tom, inquiet,
s'accroche à la poignée alors que Mamito serpente entre les pâturages sur la route étroite et cabossée. Un kilomètre plus loin, nous apercevons enfin, droit devant, la départementale 5.
Je l'avais dit, c'est un raccourci pour Froidefond.
Tom lève les yeux en direction de la dizaine de maisons du hameau accrochées à la pente, mal alignées, presque superposées, comme taillées directement dans la roche volcanique de la vallée.
Docteur, pourquoi vous m'avez parlé en basque ?
Je crispe mes mains sur le volant.
Tu ne veux pas m'appeler Maddy ?
Un cédé le passage, personne. J'attends pourtant, laissant s'impatienter mon clignotant. J'ai tout mon temps. La Bourboule, 25 km. Clermont-Ferrand, 37. Froidefond, seulement 3. Je démarre enfin, lentement. La route jusqu'au hameau n'est plus qu'un long ruban. Je répète en essayant d'être la plus naturelle possible.
Tu ne préfères vraiment pas m'appeler Maddy ?
Maintenant qu'on est amis. Tom garde le silence. Tout comme Esteban, il est un enfant trop intelligent pour se laisser piéger par les vieilles ruses d'adulte. Quand il pose une question, il veut une réponse, pas une autre question.
Docteur, pourquoi vous m'avez parlé en basque ?
Il ne se confiera à moi que si je me confie à lui. Je prends une longue respiration et je me lance.
Alaïsan, Tom.
Ainsi soit-il.
Tu sais, j'ai longtemps habité le Pays basque, à Saint-Jean-de-Luz exactement, tout près de la plage. J'y habitais avec un garçon de ton âge. Il te ressemblait beaucoup. Comme toi, il aimait beaucoup nager.
Encore 3 tournants, un panneau sur la droite, Froidefond, 1,5 km. La voiture tangue en douceur, le regard de Tom s'accroche à chaque lacet. Je dois continuer à l'apprivoiser, mon petit renard apeuré.
Il aimait beaucoup la musique aussi. Tu aimes la musique ?
La lumière du matin emplit l'habitacle. Nous traversons une forêt. Le soleil joue au radar et s'amuse à faire flasher ses rayons entre les troncs. Je me persuade que j'ai vu l'œil de Tom pétiller.
Un peu. J'ai pas d'instrument chez moi. Mais j'aime bien écouter des chansons et retrouver les notes après. Enfin, les sons, avec les flûtes en roseau que je fabrique. Ou ma guitare avec de la ficelle et du bois.
Froidefond, 0,5 km, indique un nouveau panneau. Sur ma gauche, un cul-de-sac mène à un gîte de montagne. Je ralentis. Jamais je n'ai autant respecté les vitesses sur ces routes désertes. La dernière révélation de Tom trotte dans ma tête. J'aime bien écouter des chansons et retrouver les notes après. Être capable de recomposer une mélodie de mémoire après l'avoir entendue, c'est la définition exacte de l'oreille absolue. Esteban lui aussi possédait ce don, un don qui concerne moins de 1% de la population. Je franchis le panneau Froidefond à moins de 30 km/h. Je n'ai pas le choix. Je suis arrivée. Je me gare près de la fontaine, assez près de Tom pour qu'il ne soit pas étonné, assez loin pour qu'on ne puisse pas apercevoir Mamito de la souille. Il s'agite, pressé de sortir.
« Merci, Maddy !»
Il pose déjà la main sur la poignée de la portière. J'essaie de n'effectuer aucun mouvement brusque. Je souris, je le retiens doucement par la manche de son souhait. Ne pas l'effrayer surtout.
« Une seconde, Tom. Juste une dernière question. »
Hier, le père Chauvet nous a dit qu'il y avait un enfant ici, près de la fontaine, avant que tu te sauves dans son champ à cause des abeilles. Il a même affirmé que tu parlais avec lui. Et toi, tu nous as dit le contraire.
Le regard apeuré de Tom me retourne le cœur.
Je détestais les rares fois où Esteban me mentait, être obligé de hausser le ton pour le faire avouer. J'avais la sensation que toute notre complicité serait définitivement brisée. Toutes les mamans doivent penser cela. Quand les portes claquent et que les mots sont disproportionnés. Pourtant, aucun enfant n'a jamais quitté sa mère parce qu'il s'est fait disputer. J'élève malgré moi la voix.
Le père Chauvet n'a aucune raison de mentir. C'est important, Tom. Il y avait un autre garçon avec toi ?
Je crois que Tom a peur. Je crois que je lui fais peur. Il hoquette plus qu'il ne me répond.
Oui.
Je lui souris encore. Je pose ma main sur sa joue. Je sais que je ne devrais pas, mais mes doigts reconnaissent chaque grain de sa peau, chaque fossette, chaque perle de larmes en équilibre entre le coin de ses paupières et les gouttières de son nez. Tom s'est pétrifié. Je murmure à son oreille, un secret ne se révèle que chuchoté. Tu connais son nom ?
Je ne peux pas le dire.
Pourquoi ?
Il y a des choses qui nous dépassent.
Tom a prononcé ces derniers mots comme une prière apprise par cœur. Sa voix presque inaudible racle sa gorge, tel un filet d'eau piégé dans un torrent asséché. Sa bouche est emplie de cailloux auxquels chaque mot se cogne. Je ne peux pas le laisser souffrir ainsi. Je dois le prendre dans mes bras, je me penche vers lui. Aussitôt, Tom se recule et agrippe la poignée pour ouvrir la portière. Elle résiste, il insiste. Il essaie de la secouer, de plus en plus fort, encore et encore, sans savoir que j'ai activé la sécurité enfant, qu'il ne pourra s'envoler que si je décide de le libérer. Je me contente de passer une main sur son épaule pour le calmer, pour le ramener vers moi. « N'aie pas peur, Tom. Je veux juste savoir. Ce garçon, comment il s'appelle ?» Ma main est posée à plat sur son épaule. Je sens tout son corps trembler. Je sais que je peux l'apaiser. Je sais qu'il reconnaîtra ma chaleur, ma douceur. Je dois protéger Tom. Je sais qu'il est en danger. Je dois savoir qui est cet ami, cet enfant de son âge qui n'a prévenu personne, qui aurait pu porter la responsabilité de la mort de Tom si on ne l'avait pas retrouvé. Je veux juste connaître son prénom. Une grimace déforme son si beau visage. Son front se crevasse. Les derniers mots qu'il prononce semblent arrachés de son cerveau.
Il s'appelle Esteban.
Esteban ? Esteban. C'est bien ce prénom que Tom a prononcé. Tom connaît donc Esteban. Tom l'a vu, lui a parlé. Le père Chauvet s'est trompé. Tom parlait tout seul, il conversait avec Esteban dans sa tête. Ou Esteban conversait avec Tom. C'est la même chose au fond. C'est la preuve ultime que... Je me suis déconcentrée. Tom se met à tambouriner contre la vitre de la portière, espérant une aide. Mais qui, à part moi, pourrait venir à son secours dans ce hameau désert ? Encore une seconde, Tom, je t'en supplie, rien qu'un instant. Esteban, j'ai encore tellement de questions pour toi. Personne ne t'entendra, la portière ne s'ouvrira pas. Mais je ne te veux aucun mal, je veux juste... La portière explose, la lumière jaillit. Avant que je réagisse, une poigne énorme attrape Tom par la taille et le propulse hors de la voiture. Je n'ai pas eu le temps d'esquisser le moindre mouvement. Le bras tentaculaire revient déjà, me saisit par le col, m'étrangle jusqu'à l'asphyxie et me tire tel un vulgaire sac. Ma veste s'accroche puis se déchire au levier de la boîte de vitesse. Mon visage broute le cuir pleine fleur du fauteuil. Je me retrouve catapulté sur les pierres noires du trottoir, coudes et genoux ensanglantés. L'homme devant moi est grand, barbu, tatoué au cou et au poignet. Il hésite à me bourrer de coups de pied, se retient et finit par cracher. « Salope ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mon gosse ?»